Moi, j'ai pas trop envie de passer pour un cobaye, en fait. Bienvenue sur l'antenne de Graphite. Allez, c'était après Vibrasso et c'est Enrique que j'embrasse. Le retour de Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur l'antenne de Graphite. Vous nous écoutez sur 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. J'ai une voix bizarre, ouais, depuis quelques temps. Je suis désolé. J'espère que ça va aller et que je vais pouvoir vous accompagner pendant toute cette heure sur l'antenne de Graphite. Nous allons parler de l'actualité scientifique de ce 15 avril et pas mal de choses au niveau de l'actualité scientifique. En fait, toutes les semaines, il y a quelque chose qui se passe au niveau scientifique, quel que soit le sujet, au niveau technique, médical, au niveau des énergies, au niveau du développement durable, au niveau de l'espace, bien sûr. Et c'est ce que nous allons un petit peu feuilleter au niveau de cette revue de presse de l'actualité scientifique. Alors, merci à vous. Je m'appelle Jean-Noël. Je suis heureux de vous retrouver en direct. Et comme nous sommes en direct, vous pouvez nous envoyer vos messages par SMS exclusivement. Et en fait, je suis en train de chercher, il n'y a plus de numéro de téléphone. En deux mémoires, je crois que c'est 06 95 065 026. 06 95 065 026, si vous souhaitez voilà, réagir et nous envoyer vos SMS. Et réagir notamment au niveau de l'actualité. Naissance, un 15 avril 1707 de Leonhard Euler. Alors Euler, ça nous dit quelque chose. E-U-L-E-R, ou Euler, d'ailleurs, je ne sais plus comment dit Euler, oui, c'est peut-être plutôt ça, c'était un mathématicien et un physicien russe, suisse. Il est suisse parce qu'il est né à Bâle. Et il a passé une grande partie de sa vie dans l'Empire russe, et notamment aussi en Allemagne. Il était membre de l'Académie royale des sciences de Prusse. Euler, il a fait d'importantes découvertes dans des domaines vraiment variés au niveau mathématique. Alors, comme certains d'entre nous font des fois une petite poussée d'urticaire quand on parle de mathématiques, je vous dirais donc que lui, il a mis en place, enfin, fait pas mal de découvertes au niveau du calcul infinitésimal, bien sûr, et la théorie des graphes que nous, bien sûr, nous consultons tous les jours, évidemment. Il a introduit également une grande partie de la terminologie et de la notation des mathématiques modernes, au niveau de l'analyse mathématique, la fonction mathématique, toutes ces choses qu'on a appris au lycée, eh bien, c'est grâce à Euler, merci à lui. Il est aussi connu pour ses travaux en mécanique, en dynamique des fluides, en optique, en astronomie, en géométrie également. Et donc, Euler, effectivement, est un nom qui nous parle quelque chose, ça nous dit quelque chose, et c'est normal parce qu'il est considéré comme un éminent mathématicien du 18e siècle est l'un des plus grands et des plus prolifiques de tous les temps. Il y a une déclaration qui est attribuée à Laplace, qui exprime un petit peu l'influence qu'a eu Euler sur les mathématiques. Il a dit « lisez Euler, c'est notre maître à tous ». En fait, c'était un fervent chrétien, il était croyant en l'inhérence biblique et il va s'opposer avec force aux athées éminents de son temps. C'est assez intéressant, cette ambivalence entre un mathématicien et un chrétien fervent. Et c'était donc tout un petit peu le caractère de Leonhard Euler, qui est donc né un 15 avril 1707. Et donc dans cet éphéméride, des fois on parle de scientifiques qui finalement ne sont pas passés à postérité, mais Euler, c'est le cas. C'est peut-être moins le cas de celui qui est décédé, lui, un 15 avril 1862, c'est de Frederick William Hope, zoologiste britannique. Il avait une mauvaise santé, il a passé une grande partie près de la mer Méditerranée, où il va étudier les poissons et les crustacés, et donc d'où ce rôle de zoologiste. Il est donc décédé un 15 avril, 19e siècle. Il reçoit quand même un titre de docteur honoris causa à l'université d'Oxford. Vous voyez, autant Euler, ça nous dit quelque chose, autant Hop, bon, bah ok, très bien, c'est au moins l'occasion d'évoquer avec cet éphéméride des scientifiques célèbres, ou moins célèbres en tout cas, qui ont apporté quelque chose au niveau de la recherche scientifique. On va parler des téléphones portables. Et le problème avec les téléphones portables, c'est que les gens, on le sait, passent trop de temps scotchés dessus. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est en fait celui qui les a inventés il y a 50 ans. C'est lui qui parle, c'est Martin Cooper, ingénieur américain. Il est surnommé le père du mobile, un petit gadget qui a un potentiel presque infini et pourrait même un jour aider à éradiquer les maladies. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui se mettent en place grâce à ces téléphones. Mais là, tout de suite, eh bien, Martin Cooper juge qu'on y est peut-être un petit peu trop accro. Oui, il a peut-être raison. Je suis anéanti de voir des gens traverser la rue en regardant leur téléphone portable. Ils ont perdu la tête. C'est ce qu'il confie, cet inventeur, qui est âgé de 94 ans et qui a été notamment interviewé par l'AFP. Il vit en Californie et il dit « Mais quand quelques personnes auront été renversées par des voitures, ils comprendront. » Oui, ça s'appelle du bon sens. Les montres connectées... au poignet, les iPhone dernier cri à la main, eh bien, il passe intuitivement de ses emails à ses photos et à YouTube. Bref, tout ça, il s'en sert également, lui aussi, notamment pour régler sa prothèse auditive. Oui, il a quand même 94 ans. Il se procure chaque nouveau modèle, il teste en profondeur leurs capacités, mais il confesse que les millions d'applications disponibles donnent un peu le tournis. Il dit « Je ne serai jamais capable de comprendre comment utiliser un téléphone portable de la façon dont mes petits et mes arrière-petits-enfants le font. » Le portable de Martin Cooper, qui lui sert avant tout à téléphoner, n'a pas grand-chose à voir en fait avec cette espèce de bloc assez lourd avec plein de fils de circuits électroniques qu'il a utilisé pour passer le premier appel mobile de l'histoire. C'était il y a 50 ans, le 3 avril 1973. Il était alors à la tête d'une équipe de concepteurs et d'ingénieurs de l'entreprise Motorola qui avait investi des millions de dollars pour tenter de devancer l'autre entreprise, Bell Systems, un géant américain des télécoms, et tout ça dans la conception du premier système de téléphonie mobile. Bell Systems avait évoqué cette idée dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais n'était parvenu qu'à installer à partir de la fin des années 60 des téléphones dans les voitures, notamment à cause de leur énorme batterie. Et pour Martin Cooper, cela ne permettait pas de réelle mobilité. Alors après 3 mois de travail sans interruption, son équipe parvenait à mettre au point un mobile qui s'appelait le DynaTAC. Ce téléphone pesait plus d'un kilo. Sa batterie permettait de tenir une conversation pendant environ 25 minutes. C'est ce qu'il explique dans cette interview de l'AFP. Et il dit que ce n'était pas un problème, car l'appareil était si lourd que vous ne pouviez pas le soulever pendant 25 minutes. Il a de l'humour quand même à 94 ans, Martin Cooper. Ce téléphone donc qui pesait 25 kilos, pour son premier appel, eh bien, Martin Cooper eut l'idée de génie d'appeler son rival à Bell Systems, à savoir le docteur Joel Engel. Et il lui a téléphoné, il lui a dit « Joel, c'est Martin Cooper, je te parle depuis un téléphone mobile, mais un vrai mobile personnel portable tenu à la main ». Alors il paraît qu'il y a eu un silence à l'autre bout du fil et il dit « Je crois qu'il serrait un peu les dents ». Tu m'étonnes. Ses premiers téléphones portables n'étaient pas donnés, parce que c'était environ 5 000 $ pièce. Les premiers à les adopter, selon l'inventeur, ce sont les agents immobiliers. Car grâce au mobile, ils pouvaient à la fois faire visiter des maisons et répondre aux nouveaux clients. Ça a doublé leur productivité. Aujourd'hui, le mobile est devenu une extension de la personne. Il peut faire bien plus de choses. Et ce n'est que le début. On commence seulement à comprendre ce dont il est capable. À l'avenir, on peut s'attendre à ce que le mobile révolutionne l'éducation, la santé. Je sais que j'ai l'air d'exagérer, mais sachez que dans une génération ou deux, nous allons vaincre la maladie. Il est optimiste, en fait, à 94 ans. Et c'est tant mieux. De la même façon que sa montre surveille son pouls quand il nage, eh bien les téléphones seront, selon lui, un jour reliés à des capteurs corporels qui percevront les maladies avant qu'elles ne se déclarent. C'est quand même assez fascinant. L'ancien ingénieur savait que les mobiles finiraient par changer le monde, même s'il n'avait pas imaginé tout ce dont il serait capable. Et il dit « On savait qu'un jour, tout le monde aurait un téléphone, eh bien nous y sommes presque ». Et quant aux personnes qui sont hypnotisées par leur téléphone, eh bien, ils pensent que cela va changer, car chaque génération sera plus intelligente. Ils apprendront à utiliser les smartphones de façon plus efficiente. Tôt ou tard, les humains finissent toujours par avancer, dit-il. Et en fait, donc depuis ce 3 avril 1973, avec ce premier appel depuis un appareil mobile, eh bien, il y a eu quand même pas mal d'avancées qui se sont faites depuis 50 ans. En 1992, le 3 décembre, c'est le premier SMS de l'histoire qui était transmis à un collaborateur de Vodafone depuis un ordinateur. Cet SMS disait tout simplement « Merry Christmas », « Joyeux Noël ». Ce message, vendu sous forme de NFT, atteint 150 000 dollars aux enchères fin 2021. 150 000 dollars, on a vendu aux enchères le premier SMS qui date de 92. En 1997, à partir du Nokia 6110 lancé, donc à la fin de l'année 97, eh bien, il y a le jeu Snack qui offre une distraction aux utilisateurs des téléphones de la marque finlandaise. Et oui, il y a déjà des jeux à l'époque. En 99, c'est un peu les balbutiements de l'Internet mobile, toujours par Nokia, qui ouvre la voie justement à cet Internet mobile avec le Nokia 7110. Et il y a aussi la même année le Nokia 3210 qui intègre pour la première fois l'écriture prédictive. Ça accélère un peu la rédaction des SMS, on a tous connu ça, mais ça date de 99. En 2009, le lancement de l'application WhatsApp, aujourd'hui numéro 1 des messageries instantanées. En 2011, c'est à la fois l'assistant vocal Siri qui est mis en place par Apple et en même temps la fièvre de tous ces emojis qui s'emparent de la planète, hein, toutes ces petites images, ces émoticônes comme on dit, ça date de 2011. Et puis en fait la réalité augmentée apparaît en 2016, c'est, on se souvient de l'été 2016, le succès mondial du jeu Pokémon. On s'en souvient hein, que tout le monde a essayé de chasser les Pokémon un petit peu partout. Des créatures virtuelles dans un monde réel, c'était quand même assez fascinant. Ça date de 2016. Et enfin, en 2019, la 5G qui arrive et les premiers smartphones pliables. Il s'en est passé des choses depuis 50 ans. Et justement, Martin Cooper lui reste encore très positif avec cette invention qui date donc il y a 50 ans. Merci Martin Cooper. Et on verra bien sûr l'avenir des téléphones portables par la suite. Et on suivra ça parce que c'est une technologie quand même assez fascinante, bien évidemment. Biotine sur l'antenne de Graphite, tous les samedis entre 12h et 13h, et la rediffusion tous les mardis matin à 10h. On parle d'actualité scientifique et on écoute aussi un peu de musique. Alors il y a toute une playlist qui est proposée par la direction de Graphite et on pioche un peu dedans. Et moi je pioche toujours dans la partie récent, c'est-à-dire tous les titres qui sont récents. Et je tombe sur un Serge Gainsbourg qui est quand même décédé il y a plus de 30 ans, mais bon, que c'est récent. On va écouter du Gainsbourg, en plus on adore ça.
Quand on me dit que je suis moche, je me marre doucement pour pas te réveiller. Tu es ma petite Marilyn, moi je suis ton Miller, hein? Non, pas Arthur, plutôt Henri. Spécialiste de hardcore. La beauté cachée, délai, on se voit sans délai, délai. La beauté cachée, délai, on se voit sans délai, délai. Même musique, même reggae pour mon chien, que tout le monde trouvait si vilain. Ouf, toutou, c'est moi qui bois, c'est lui qui est mort d'une cirrhose, peut-être était-ce par osmose. Tellement qu'il buvait mes paroles. La beauté cachée, délai, délai, se voit sans délai, délai. La beauté cachée, délai, délai, se voit sans délai, délai. Enfin, faut faire avec ce qu'on a. La sale gueule, nous on n'est plus rien. D'ailleurs, nous les affreux, je suis sûr que Dieu nous accorde un peu de sa miséricorde, car la beauté cachée, délai, délai, se voit sans délai, délai. La beauté cachée, délai, délai, se voit sans délai, délai. Eh oui. We'll be right back.
Serge Gainsbourg, Delay sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h sur le 94.9 pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM et Graphite.net pour ceux qui nous écoutent sur Internet. Ces dernières semaines, il y a eu deux disparitions. On n'a pas eu le temps de les évoquer dans les précédentes émissions de Biotine, donc on va les évoquer aujourd'hui. D'abord, la disparition de Claude Lorius. Il avait 91 ans. Il est décédé le 21 mars dernier. Claude Lorius n'était pas très connu du grand public, bien qu'il était l'un des grands aventuriers de l'exploration polaire, l'un des héros du premier hivernage en Antarctique, c'était en 1957. Et en fait, l'histoire retiendra malheureusement surtout le nom de Claude Lorius comme celui de l'homme qui a en quelque sorte découvert le réchauffement climatique anthropique. Il en avait eu l'intuition très tôt, dès les années 1970. Il avait alors déjà depuis un bon moment en tête ce à quoi personne avant lui n'avait pensé. C'est-à-dire que l'air emprisonné dans les carottes de glace pourrait avoir gardé la mémoire de l'histoire climatique de la Terre. Et donc, dans les années 1980, les analyses lui ont donné raison sur toute la ligne. Le processus est enclenché, c'est ce qu'annonçait ainsi Claude Lorius dès le tout début des années 1990. Depuis, il y a des centaines de milliers de scientifiques qui l'ont constaté. Le dernier rapport de synthèse du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dont le chercheur a été l'un des premiers experts à sa création 88, eh bien, a publié il y a quelques semaines justement son dernier rapport et ne peut que confirmer cette prémonition de Claude Lorius. En 2008, Claude Lorius avait reçu pour ses travaux le prestigieux Blue Planet Prize. C'est un petit peu l'équivalent du prix Nobel de l'environnement. C'était un pionnier impressionnant et chaleureux parmi les plus grands glaciologues du XXe siècle. Nous lui devons beaucoup. Nous n'oublierons jamais qu'il a été le premier. Les hommages se sont multipliés depuis l'annonce de la disparition de Claude Lorius, mais le plus beau que nous puissions faire au niveau des hommages serait sans doute de pouvoir essayer de limiter enfin nos émissions de gaz à effet de serre, ralentir la marche du réchauffement climatique anthropique et donc éviter de mettre en péril la vie sur Terre. Il a été donc le premier et il est décédé le 23 mars dernier à l'âge de 91 ans, Claude Lorius. Deuxième disparition, toujours au mois de mars, la disparition de Jean-Jacques Favier. Il est né à Kehl. Kehl, c'est la frontière allemande, hein, c'est juste à côté de Strasbourg. Il est né en 1949 et il fête ses 12 ans le lendemain du vol historique de Yuri Gagarin. Et à cette occasion, ses parents lui offrent Le Tour du Monde en 80 jours, le fameux roman de Jules Verne, avec en dédicace Tu feras partie de la génération qui le fera en 80 minutes. Et bien, c'est un pari réussi pour Jean-Jacques Favier qui fait son premier et unique vol à bord de la navette spatiale américaine Columbia. C'était en 1996, parce qu'il a fait le tour de la Terre en 88 minutes. La prémonition était quasi exacte. Au cours de cette mission où il vole avec 5 astronautes américains et un Canadien, eh bien Jean-Jacques Favier avait le poste de spécialiste de mission, le poste qui lui correspond le mieux, parce que Jean-Jacques Favier faisait partie des rares astronautes qui ne venaient pas du tout du monde des pilotes. Il était grand, il faisait 1m93. Il était même trop grand pour le vaisseau Soyouz. Et avant tout, Jean-Jacques Favier est un scientifique qui se spécialise dans les métaux. Il avait notamment un doctorat en physique et en métallurgie qu'il a obtenu à Grenoble. Il est ingénieur-chercheur au CEA, au Centre d'énergie atomique. Il est sélectionné par le CNES, le Centre national d'études spatiales, comme astronaute expérimentateur. Et il va attendre 1992 pour être retenu comme membre de réserve d'une mission. Ils volent finalement 4 ans après, en 1996. Il passe 21 jours en orbite où il encadre des expériences. Il est d'ailleurs responsable de l'expérience française Mephisto, qui est un four spatial qui a fait plusieurs vols en navette. Et puis jusqu'à récemment, Jean-Jacques Favier était encore actif. Il collaborait notamment avec le projet Spaceship du CNES. Et le but, c'est de développer des moyens de recherche et des technologies pour préparer des futures bases lunaires ou des bases martiennes. On en parle très fréquemment dans cette émission. Jean-Jacques Favier a beaucoup enseigné au cours de sa carrière. Et il était souvent en contact des jeunes, notamment à la Cité de l'Espace à Toulouse. Il a fait des centaines d'interventions en classe. J'ai pu voler grâce à l'argent public. Cela me paraît un jour un juste retour de contribuer à susciter des vocations dans le domaine scientifique et technique. C'est ce qu'il soulignait. Il avait tellement raison, effectivement, de pouvoir aussi transmettre sa passion et susciter des vocations, bien sûr. Dernièrement, Jean-Jacques Favier avait parrainé l'expérience étudiante toulousaine Tetris, qui est sélectionnée parmi les expériences françaises manipulées par Thomas Pesquet lors de son dernier vol en orbite. La disparition de l'astronaute Jean-Jacques Favier laisse un grand vide dans le monde spatial. Le CNES perd l'un des siens, premier scientifique français à être allé dans l'espace. Je sais qu'il marquera de son empreinte les futures générations et inspirera nombre d'entre nous. C'est ce que souligne Philippe Baptiste, qui est le PDG du CNES, dans un communiqué. Jean-Jacques Favier est donc décédé le 19 mars dernier, à l'âge de 73 ans. Une carrière scientifique bien remplie et un vrai modèle aussi au niveau de la vulgarisation scientifique. Voilà, c'était les deux disparitions. C'est pas toujours gay, mais en fait, c'était quand même important de pouvoir honorer la mémoire de ces deux personnes dans le cadre de cette émission de Biotine. Allez, on écoute encore un petit peu de musique et puis on continue à feuilleter la revue de presse de l'actualité scientifique. Big Easy, c'était Raphaël Sadik sur l'antenne de Graphite. L'actualité, c'était cette semaine. Le décollage de la sonde spatiale JUICE, c'était jeudi que donc cette sonde spatiale décollait de Kourou à bord d'une Ariane 5. La sonde JUICE a pour but d'explorer Jupiter et son système, et puis en particulier un petit peu les lunes de Jupiter. Ce sont des lunes qu'on appelle galiléennes glacées. Elles s'appellent appelle Europe, Ganymède, Callisto. L'idée, c'est de caractériser si elles sont habitables. C'est l'une de Jupiter. Et donc, ça a décollé jeudi. Et en fait, ça va durer 8 ans, quand même pas rien, avec un plan de vol qui est le suivant, c'est-à-dire le survol de la Lune et de la Terre en août 2024. En août 2025, ça va être le survol de Vénus. En septembre 2026, ça va être le survol de la Terre. Et puis ça va revenir en 2029, survol de la Terre. Et enfin, en 2031, l'arrivée dans le système de Jupiter, avec le début de la mission scientifique au cours de l'approche, donc en 2031. Et JUICE va réaliser 35 survols de ces fameuses lunes galiléennes glacées. Et en décembre 2034, ce sera la mise en orbite autour de l'une de ces lunes qui est Ganymède. Alors, pour en savoir un petit peu plus, l'excellent site de vulgarisation scientifique qui s'appelle Futura Science a posé des questions à Arnaud Boutonnet, qui est expert en dynamique du vol à l'Agence spatiale européenne, justement pour en savoir un petit peu plus. Et je trouvais intéressant cette interview, donc je me permets de pouvoir vous la lire. Futura Science demande, mais alors pourquoi le voyage de JUICE va durer 8 ans? Parce que 8 ans, c'est quand même pas rien. Réponse donc de Arnaud Boutonnet. La réponse tient en un mot, c'est le lanceur. Quand on a un lanceur très puissant, on fait ce qu'on appelle dans le jargon technique un transfert de Oman, c'est-à-dire une demi-ellipse qui part de la Terre jusqu'à Jupiter. Cela prend 2 ans et demi. C'est très rapide, mais il faut avoir un lanceur très puissant. Ariane 5 n'est pas assez puissante, donc on réalise ce qu'on appelle des assistances gravitationnelles après plusieurs survols de la Terre, de la Lune, de Vénus. Eh bien, le dernier survol de la Terre va permettre de partir vers Jupiter avec les mêmes conditions que nous aurait donné un lanceur très très puissant. Alors, comment Vénus est devenue une étape du voyage, justement, de JUICE? Eh bien, réponse difficile d'utiliser les assistances gravitationnelles de la Terre et de Mars comme avec Rosetta, car le problème de Mars est que la masse est assez faible. Mars est aussi plus loin de Vénus par rapport au Soleil et donc tourne plus lentement autour du Soleil, si bien qu'il faut attendre de pouvoir se phaser avec elle. Il rappelle qu'un voyage entre la Terre et Mars n'est possible que tous les 26 mois. Alors effectivement, on a des fenêtres de tir qui sont assez réduites. C'est la première fois que l'on va utiliser la Lune et la Terre comme assistance gravitationnelle. Et précisément, quel est l'apport de la Lune dans ce système-là? Alors Arnaud Boutonnet explique, quand on fait un survol de la Terre, la trajectoire suit une forme géométrique que l'on appelle une hyperbole. On a une certaine vitesse à l'arrivée et le survol change la direction tout en gardant la même vitesse par rapport à la Terre. Mais quand après on regarde la vitesse par rapport au Soleil, on voit qu'on a accéléré. C'est le principe d'une assistance gravitationnelle normale avec la Terre. Si vous avez la Lune sur le chemin, ben vous allez gagner en vitesse par rapport à la Terre. Et donc, on va accélérer encore plus par rapport au Soleil. Ça nous évite de demander cela au lanceur, par exemple. Donc, on va pouvoir utiliser cette assistance gravitationnelle pour pouvoir faire accélérer cette sonde. Avec les survols et quelques manœuvres de correction de trajectoire, quelle est la part des 3500 kg de carburant de la sonde qui est consacrée à ce voyage? Eh bien, il explique que c'est quelques centaines de kilos qui sont quand même utilisés pour tous ces survols et toutes ces manœuvres de correction de trajectoire, ce qui n'est quand même pas rien, pardon, finalement. Autre question, peut-on espérer survoler d'autres lunes de Jupiter, comme Io, par exemple, ou d'autres plus petites? Alors, Arnaud Boutonnet explique qu'on ne va pas aller voir la Lune Io à cause des radiations. Ça nous coûte déjà beaucoup d'aller voir Europe. La quasi-totalité des autres lunes est très éloignée. La seule chance de les voir est pendant notre arrivée à Jupiter. On a très peu de liberté sur cette partie du trajet. On a regardé si par hasard, on aurait la chance d'en croiser une et ce n'est pas le cas. Alors, comment on dresse un plan de vol d'une sonde comme JUICE? Eh bien, on nous explique que c'est en deux étapes. La première s'appelle la recherche globale. C'est un peu comme se demander quel est le plus haut sommet des Pyrénées. Vous allez dans un premier temps présélectionner ceux qui vous paraissaient plus hauts, puis ensuite vous faites un énorme zoom sur chacun d'eux en tenant compte d'un relief précis pour avoir une mesure exacte de leur hauteur. Eh bien, on fait pareil, nous dit-il. Dans un premier temps, on a des outils de recherche globale pour nous donner les meilleurs plans de vol possible, avec une modélisation de la dynamique qui simplifie et avec par exemple un nombre de manœuvres limité, c'est-à-dire que moins on fait une manœuvre, mieux c'est quelque part. Ensuite, on passe à l'optimisation fine où on va utiliser des outils complètement différents qui, à partir d'un point de départ, vont nous donner justement des manœuvres et une modélisation plus précise. Et donc, du coup, on peut essayer d'optimiser de façon itérative les plans de vol. Quelle liberté nous permettra un vol parfait d'Ariane 5 ? Eh bien, la marge que l'on a prévue n'est pas énorme en réalité. Par contre, là où nous aurons énormément à gagner, c'est sur la fenêtre de tir. Celle de Juste démarrait donc le 13 avril et se finissait le 30. C'est pour ça qu'il y a eu un départ justement pendant cette période période-là. Le plan de vol le plus optimisé devait nous faire partir initialement le 11 avril. Plus on s'éloignera de cette date, plus le coût en carburant augmentera et très rapidement. Il y a une énorme différence en budget carburant entre un tir qui a lieu le 13 et un tir qui a lieu le 30. Donc c'est pour ça que c'est le 13 qui a été choisi. Et il y a aussi l'heure de décollage qui ne doit absolument pas être retardée parce que la trajectoire interplanétaire optimisée doit nous faire partir dans une direction très précise à la seconde près. Si on part 10 secondes plus tard, eh bien, il va falloir encore pas mal utiliser de carburant pour corriger ça. Et donc, on est bien dans une perspective de pouvoir optimiser cette trajectoire. Voilà, c'est le décollage donc et le départ de cette sonde JUICE qui va aller rencontrer Jupiter. Ça va durer 8 ans et évidemment, on va suivre cette évolution. Je vous ai dit, mais je crois que je vous le dis presque toutes les semaines, cette décennie 2020 est fantastique au niveau de la conquête spatiale, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on revient sur la Lune, on va partir sur Mars. Et donc là, on apprend quelque part aussi qu'on veut en savoir plus sur Jupiter. On est sur des échéances pas véritablement longues, hein, parce que finalement, 8 ans sur une échelle technologique, c'est presque rien, et ça nous permettra justement de suivre un petit peu l'avancée de cette sonde JUICE. Bien sûr, sur l'antenne de Graphite, on va se faire un petit plaisir. Allez, on écoute encore un peu de musique sur l'antenne de Graphite, 06 95 065 026, si vous souhaitez réagir par SMS, 06 95 065 026.
Whenever it rains, I think of you, and I always remember that day in May when I saw you walking in the rain. I know not what it was nor why, for usually I'm quite shy. I asked you your name, you smiled and said, Lorraine. I asked if I could share your umbrella. You smiled and said, what a cheeky little fella. Now I'm standing in the rain in vain, Lorraine, hoping to see you again. Tears fall from my eyes like rain, Lorraine, a terrible pain in my brain, Lorraine, you're driving me insane. Whenever it rains, I think of you, and I always remember that day in May when I saw you walking in the rain. I know not what it was nor why, for usually I'm quite shy, but from the moment I saw you, I knew that I needed you in my life. From that moment on, I knew that I wanted you for my wife. Standing in the rain in vain, Lorraine, hoping to see you again. The tears fall from my eyes like rain, Lorraine, got a terrible pain in my brain, Lorraine, you're driving me insane. Whenever it rains, I think of you, and I always remember that day in May when I saw you walking in the rain. I know not what it was nor why, for usually I'm quite shy. I said, let's go back to my place for some coffee. You frowned and said, "Boy, kiss me body." I felt so ashamed. I did not even notice when your boss came and went again. To see you again. Tears fall from my eyes like rain. Lorraine, got a terrible pain in my brain. Lorraine, you're driving me insane. Lorraine, Lorraine, Lorraine.
C'était Linton Kwesi Johnson sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotin tous les samedis entre 12h et 13h et tous les mardis matins 10h pour la rediffusion afin de vous tenir informé de l'actualité scientifique. Et vous avez bien raison. On a parlé de l'actualité scientifique avec le décollage de la sonde JUICE qui est donc partie jeudi, il me semble. Autre actualité, c'est l'exposition Ramsès II et l'or des pharaons qui est donc disponible, présente à la Villette depuis la semaine dernière, depuis une bonne semaine, et ça braque donc un petit peu à nouveau les projecteurs sur un souverain sans conteste parmi les plus célèbres de l'Antiquité. Ramsès lui-même ne sera toutefois pas présent, sa momie de plus de 3200 ans est désormais trop fragile. Sa dépouille, elle fut en effet voyageuse, voire audacieuse. Elle avait même pris un avion en 1976. Son ultime trajet après moult péripéties restera sans doute cette improbable parade qui date de 2021. Ramsès II, en compagnie d'autres momies tout aussi royales, quitta le vieux musée place Tahrir au Caire pour aller prendre ses quartiers peut-être définitifs au nouveau musée national de la civilisation égyptienne. Ce qui n'empêche pas la royale momie d'être bavarde, parce que depuis 140 ans qu'elle est étudiée sous toutes les coutures de ses bandelettes, elle en a raconté beaucoup, tant sur elle-même que sur le vieux souverain, qui ont permis de découvrir les investigations et les soins minutieux menés sur ses illustres patients. Eh bien, on en sait un petit peu plus sur le règne de Ramsès II, qui date de 1200. Alors attention aux dates, parce que là, on est quand même sur lointain, 1279 à 1213 avant Jésus-Christ, un règne qui est quand même assez long, incroyablement long d'ailleurs, même s'il ne va pas surpasser celui de Louis XIV. On parle quand même de 66 ans de règne, 66 ans de faits guerriers, de conquêtes, de constructions pharaonique, c'est qu'à le dire, et de géopolitique également, avec aussi la construction de temples, notamment les temples d'Abou Simbel. Le souverain, il meurt à plus de 80 ans, il est inhumé dans la vallée des rois, dans un tombeau long de quelques 168 mètres quand même. C'était localisé en 1737 par un voyageur britannique qui s'appelait Richard Pocock. Elle est aujourd'hui la tombe KV7, KV pour King's Valley, le numéro envoyant à l'ordre des découvertes des sépultures, mais eut égard aux merveilles d'Abou Simbel ou de la tombe de son épouse Nefertari, eh bien, le monument peut s'avérer un petit peu déceptif parce que le tombeau est vide de longue date. Il est de plus fragilisé par les inondations et ses fresques, ses bas-reliefs sont largement dégradés. Depuis 1993, il y a des campagnes de fouilles et de consolidation qui ont été diligentées par la mission archéologique française de Thèbes Ouest qui lutte justement pour sa préservation, mais ce n'est pas évident. Il faut dire aussi qu'il y a des pillages qui étaient un petit peu prémédités. Et donc, du coup, on a transféré un petit peu tout ça dans des endroits un petit peu plus sécurisée, on va dire. Cette tombe, elle sera en fait recyclée par les autorités de la fin du Nouvel Empire. Et puis on cache un petit peu les dépouilles des plus puissants souverains de la période. On préserve un petit peu tout ça. Bref, si vous êtes des adeptes de toute cette époque, eh bien, il y a donc le cercueil de ce pharaon, Ramsès II, qui est donc présent lors de cette exposition à la Villette depuis une semaine. Donc, allez-y, profitez-en, parce que ça vaut sûrement le coup. Je ne l'ai pas vu. Il paraît que c'est assez... Il y a pas mal de billets qui ont été vendus, je ne sais plus, ça se compte en dizaines de milliers, il me semble. Je n'ai pas les derniers chiffres, mais en tout cas, c'est assez impressionnant. Alors, on lui a fait beaucoup d'examens, hein, cette dépouille, ça révèle un état de santé assez complet. Et on a fait de l'imagerie médicale, on a fait des analyses radiologiques. Et donc, on en sait un petit peu plus sur ce pharaon Ramsès II, qui a eu quand même un règne de 66 ans. C'est quand même pas mal. Bravo à lui. Félicitations. Voilà. Ça, c'était donc l'actualité au niveau de Ramsès II. Il y a d'autres informations que je souhaitais évoquer avec vous, avec des petites alertes ou autres qui ont été annoncées par communiqué de presse, notamment la Turquie. La Turquie qui est une destination phare de ce qu'on appelle le tourisme médical. Il y a de nombreuses cliniques esthétiques qui accueillent des clients étrangers, notamment pour des chirurgies, des interventions plus légères, tout simplement parce que c'est aussi moins cher que ce qui se fait en France ou en Europe. Et parmi toutes les procédures minceurs qui sont proposées, il y en a une qui est particulièrement populaire, c'est ce qu'on appelle le botox gastrique. Donc, sous anesthésie locale, il y a un médecin qui va injecter de la toxine botulique dans l'estomac par endoscopie pour figer ses mouvements musculaires et donc accélérer l'apparition de la satiété, c'est-à-dire que en fait, on n'a plus faim et ça permet de perdre du poids avec une alimentation équilibrée. L'intervention ne dure qu'une trentaine de minutes et les patients ne restent que quelques heures en observation avant de pouvoir quitter la clinique. Donc c'est presque un aller-retour d'une journée. Grosso modo, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies met en garde contre une conséquence de plus en plus fréquente de ce botox gastrique. C'est une infection rare que l'on contracte en mangeant des aliments contaminés par une bactérie particulière qui est le Clostridium botulinum. Cette dernière produit naturellement une toxine, toxine botulique, qui est l'un des poisons neurotoxiques les plus puissants connus. Et en médecine esthétique, cette même toxine est présente à une dose faible qui ne doit pas provoquer de symptômes dans le botox. Mais si c'est mal réalisé, eh bien le botox gastrique peut provoquer les symptômes plus ou moins sévères du botulisme. Et donc, ce Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a identifié 63 cas de botulisme qu'on appelle iatrogène, c'est-à-dire dû à un acte médical, et cela uniquement entre fin février et le 10 mars dernier, donc sur une période de deux semaines à peu près. Sur les 63 cas, 60 sont reliés à des cliniques esthétiques privées en Turquie, situées notamment à Istanbul et à Izmir. Selon les investigations en cours, les cliniques concernées auraient utilisé du botox qui n'était pas homologué pour une utilisation gastrique. En conséquence, elles ont dû fermer leurs portes. Reste à confirmer si ces produits sont bien responsables des cas de botulisme iatrogène ou s'il s'agit d'erreurs médicales. Le botulisme iatrogène se manifeste un petit peu comme le botulisme infectieux, c'est-à-dire la fatigue, faiblesse, des difficultés respiratoires, une difficulté à avaler, une paralysie des nerfs de la face, du visage. Et ça peut même aller jusqu'à l'arrêt cardio-respiratoire pour les intoxications les plus graves. Il y a certains patients qui s'étaient rendus en Turquie, qui ont dû être soignés avec un traitement antitoxine botulique en unité de soins intensifs. Donc c'est quand même assez sérieux. Et la prévalence du botulisme iatrogène n'est pas connue et les cas resteraient rares jusqu'à la multiplication. Enfin, ça restait rare jusqu'à la multiplication de ces interventions de médecine esthétique avec le botox. Voilà. Donc vous voulez faire une opération de botox gastrique? Eh bien, faites-le en Turquie, mais vous avez maintenant un petit peu connaissance des conséquences qu'il peut y avoir. Voilà, on va écouter un peu de musique et puis on terminera cette émission avec des dernières informations scientifiques sur l'antenne de Graphite.
étrange virus commence à se propager dans plusieurs endroits du globe.
Certains chercheurs affirment que l'amour pourrait être à l'origine.
Je crois qu'il faut admettre que l'amour est aujourd'hui un concept dépassé.
Насильственные демонстрации зафиксированы в большинстве крупных городов. Есть погибшие. На сегодняшний день в Москве любовь полностью запрещена.
Partout dans le monde, des millions de gens sont descendus dans la rue pour exiger que l'amour soit interdit.
Breaking news. As we speak, violent protests are taking place in New York.
People holding hands have been arrested.
Plusieurs pays ont d'ores et déjà décidé de
prendre des mesures de restriction.
Le gouvernement annonce qu'il prendra une décision ce jeudi.
Il faut prendre des mesures drastiques contre ces gens totalement inconscients qui continuent à s'aimer.
What the fuck?
Is there really forbidden from that?
Un dette di temere all'amore, anno vieta tu diamare.
Ici à Amsterdam, il est désormais impossible de s'embrasser dans la rue, même de se tenir par la
bouche.
Nowadays in London.
Beslutet att från mig ikväll är kärlek förbjuden i hela landet.
Ja, men kärlek
är impossible.
Problem is love.
In Rio is a
situation.
The government has decided that for now love is forbidden.
A partir de hoje, o amor está proibido.
C'est désormais officiel, à partir de ce soir, sur l'ensemble du territoire, il sera interdit de
s'effondrer.
Il sera interdit de s'effondrer.
Saint-Pierre, à Charleroi, à Charleville-Mézières, Tirana à Kiev, Kuala Lumpur, Aix-la-Chapelle, Ponton-sur-la-Dour, Addis-Abeba, Lahore, Bandar, Durban, Dublin, la gare la démarre, Minsk, Grasse, Minsk, Pax, Damas, Reykjavik, Baltimore, Halifax, Kampala, Canton, Belize, La Courneuve, Trappes, Colombelle et deux églises, Arequipa, Bombay, Brisbane, Conakry, Recife, Villeurbanne, ici, ailleurs, partout dans les rues, il semblerait que l'amour fût. Il semblerait que l'amour fût. Dans les trains de nuit, les parcs, les cimetières, dans les backstage, les alcôves, les ministères. Sur les tables de cuisine, les machines à laver, dans la moiteur des hammams, sur les graviers, sur les banquettes arrière, dans les arrière-cours, dans les cours de yoga, sous les abat-jours, dans les chambres de Formule 1, les bottes de paille, dans les palaces, sur les canapés en sky, dans les maisons closes, les ascenseurs, contre les murs des usines, contre les saules pleureurs, dans les cinémas, les caves, les bateaux-mouches, sous la pluie battante, dans les toilettes, les bains-douches, au milieu des salons, sur les mezzanines, sous les portraits de Vladimir Poutine, ici, ailleurs, partout dans les rues, il semblerait que l'amour fût. Il semblerait que l'amour fût. Il semblerait que l'amour. Et que tu n'as même pas écouté. Il semblerait que l'amour m'en fout. Dans la chanson que je t'avais laissée et que tu n'as même pas écoutée, il semblerait que l'amour m'en fût. Dans la chanson que je t'avais laissée et que tu n'as même pas écoutée, il semblerait que l'amour m'en fût.
Il semblerait que l'amour fût, c'était le voyage de Noz sur l'antenne de Graphite. Il est 12h et pile 53 minutes. Alors, pour terminer cette émission, cette dernière information qui concerne le compositeur et pianiste allemand Beethoven. Il reste l'un des artistes les plus influents et les plus populaires de la musique classique. Sa perte d'audition progressive, elle est bien connue aujourd'hui, mais elle n'était pas de son vivant parce que Beethoven avait souhaité garder ce secret jusqu'à sa mort, alors que la maladie avait débuté entre le milieu et la fin de sa vingtaine, et qui l'a rendu complètement sourd en 1818. Beethoven souffrait de différents problèmes de santé, dont les biographes médicaux ont tenté de déterminer les causes les plus probables. Les recherches sont surtout appuyées sur des sources documentaires, notamment des lettres, des journaux intimes du compositeur, ainsi que sur des notes de médecins, un rapport d'autopsie et des descriptions du matériel squelettique. La perte auditive de Beethoven s'est manifestée au début de la maladie par des acouphènes et une perte des fréquences aiguës. Il souffrait également de troubles abdominaux débilitants depuis l'âge de 22 ans. En fait, ce sont des troubles qui sont caractérisés par des douleurs abdominales et des crises intenses de diarrhée. Le pianiste allemand présentait vers la fin de sa vie des symptômes de maladie du foie. Et il y a plusieurs éléments qui indiquent une consommation régulière de quantités modérées importantes d'alcool, qui ont d'ailleurs conduit certains biographes médicaux à conclure que Beethoven en était dépendant, ce qui est un facteur de risque connu de cirrhose du foie et que certains considèrent comme étant la cause de sa mort. À savoir que les analyses antérieures qui suggéraient que Beethoven avait souffert d'empoisonnement au plomb, eh bien tout ça se sont révélées être basées sur un échantillon qui n'était pas du tout le sien, mais qui provenait d'une femme. Et donc plus de 2 siècles plus tard, il y a des chercheurs qui ont effectué une analyse génétique à partir de mèches de cheveux du compositeur. L'idée, c'est d'un petit peu d'élucider les causes génétiques et infectieuses sous-jacentes potentielles de ces maladies qu'il a eues tout au long de sa vie. Et donc, nous n'avons pas été en mesure de trouver une cause définitive à la surdité ou aux problèmes gastro-intestinaux de Beethoven. C'est ce qu'explique Johannes Kraus de l'Institut Max Planck d'anthropologie à Leipzig, c'est en Allemagne. Cependant, il explique, nous avons découvert un certain nombre de facteurs de risque génétiques significatifs pour les maladies du foie. Nous avons également trouvé des preuves d'une infection par le virus de l'hépatite B au plus tard dans les mois précédant la dernière maladie du compositeur. Ces éléments ont probablement contribué à sa mort. Il y a eu 8 mèches de cheveux qui sont attribuées à Beethoven, qui ont fait l'objet d'analyses génomiques. 5 provenaient d'un seul homme européen. Ils ont donc estimé que les échantillons devaient être authentiques. Et ils ont donc, à partir de là, séquencé le génome de Beethoven grâce aux nouvelles méthodes d'analyse du génome entier. Et donc, l'ADN extrait des cheveux de Beethoven est génétiquement le plus proche de celui des habitants de l'actuelle zone de la Rhénanie du Nord, ce qui correspond donc à la tendance allemande connue de l'artiste. Il y a des futures études qui pourraient aider à préciser la période de son infection par l'hépatite B. Mais donc voilà, on a pu essayer de prélever l'ADN dans les cheveux de Beethoven et puis essayer d'en savoir un petit peu plus sur sa mort. Affaire à suivre bien sûr, parce qu'on n'a pas totalement des confirmations. Mais voilà, tout se sait, même 200 ans après, on le sait, c'est ça la science. C'est la fin de cette émission. Merci de votre attention et de votre fidélité. On se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine sur l'antenne de Graphite. Vous suivez Graphite sur l'antenne Bande FM le 94.9, mais aussi sur le site internet graphite.net, où vous avez la possibilité de pouvoir récupérer tous les podcasts de toutes les émissions de Graphite, bien sûr. D'ici là, eh bien, vous continuez à rester, bien sûr, fidèles à l'antenne de Graphite et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de Biotine. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Merci. Au revoir.